Chapitre 7. Depuis ce jour, je n'avais plus la tête à rien. J'essayais d'abord de me remettre à l'ouvrage, mais sans cesse mes pensées étaient ailleurs. Et M. Goulden lui-même me dit « Joseph, laisse cela. Profite du peu de temps qui te reste à passer avec nous. Avoir Catherine et la mère Gredel, je crois toujours qu'on te réformera. Mais que peut-on savoir ? On a tellement besoin de monde que cela risque de traîner en longueur. » J'allais donc chaque matin aux quatre vents, et je passais mes journées avec Catherine. Nous étions bien tristes, et pourtant bien heureux tout de même de nous voir. Nous nous aimions encore plus qu'avant, si c'est possible. Catherine, quelquefois, essayait de chanter, comme dans le bon temps, mais tout à coup, elle se mettait à pleurer. Alors nous pleurions ensemble, et la tante Gredel recommençait à maudire les guerres qui font le malheur de tout le monde. Elle disait que le conseil de révision méritait d'être pendu, que tous ces bandits s'entendaient ensemble pour vous empoisonner l'existence. Cela nous soulageait un peu de l'entendre crier, et nous trouvions qu'elle avait raison. Le soir, je rentrais en ville, vers 8 ou 9 heures, au moment où l'on fermait les portes, et je voyais, en passant, toutes les petites auberges pleines de conscrits et de vieux soldats réformés qui buvaient ensemble. Les conscrits qui payaient toujours, les autres, le bonnet de police crasseux sur l'oreille, le nez rouge, le vieux col de crin en guise de chemise, se retroussaient les moustaches en racontant d'un air majestueux leur bataille, leur marche et leur duel. On ne pouvait rien voir de plus abominable que ces trous pleins de fumée, le quinquet sous les poutres sombres, ces vieux ferrailleurs et ces jeunes gens en train de boire, de crier, de taper sur les tables comme des aveugles. Et derrière, dans l'ombre, la vieille Annette Schnaps, ou Marie Hering, la tignasse tordue sur la nuque, le peigne à 3 dents en travers, observant ces choses en se grattant la hanche ou bien en vidant un pot à la santé des braves. C'était triste pour des fils de paysans, des gens honnêtes et laborieux, de mener une existence pareille. Mais personne n'avait plus envie de travailler. On aurait donné sa vie pour 2 liards. À force de crier, de boire et de se désoler intérieurement, on finissait par s'endormir, le nez sur la table. Et les vieux vidaient les cruches en chantant. « La gloire nous appelle !» Mais qui voyait ces choses, je bénissais le ciel dans ma misère de me donner d'honnêtes gens pour soutenir mon courage et m'empêcher de tomber entre pareilles mains. Cela se prolongea jusqu'au 25 janvier. Depuis quelques jours, un grand nombre de conscrits italiens, des piémontais et des génois, étaient arrivés en ville. Les uns, gros et gras comme des savoyards nourris de châtaignes, le grand chapeau pointu sur la tête crépue, le pantalon de bure teint en vert sombre et la petite veste également de bure mais couleur de brique serrée aux reins par une ceinture de cuir. Ils avaient des souliers énormes et mangeaient du fromage sur le pouce, assis tout le long de la vieille halle. Les autres, secs, maigres, bruns, grelottaient dans leurs longues sous-quenilles rien qu'à voir la neige sur les toits et regardaient passer les femmes avec de grands yeux noirs et tristes. On les exerçait sur la place tous les jours à marcher au pas. Ils allaient remplir les cadres du 6e léger à Mayence et se reposaient un peu dans la caserne d'infanterie. Le capitaine des recrues, qui s'appelait Vidal, logeait au-dessus de notre chambre. C'était un homme carré, solide, très ferme et pourtant aussi très bon et très honnête. Il vint faire raccommoder la sonnerie de sa montre chez nous et quand il sut que j'étais conscrit et que j'avais peur de ne pas revenir, il m'encouragea, disant que tout n'est qu'habitude, qu'au bout de 5 ou 6 mois, on se bat et l'on marche comme on mange la soupe, et que beaucoup même s'habituent tellement à tirer des coups de fusil ou de canon sur les gens qu'ils se considèrent comme malheureux lorsqu'ils n'ont pas cette jouissance. Mais sa manière de raisonner n'était pas de mon goût, d'autant plus que je voyais 5 ou 6 gros grains de poudre sur une de ses joues, lesquels étaient entrés bien loin dans la peau, et qu'il m'expliqua provenir d'un coup de fusil qu'un Russe lui avait lâché presque sous le nez. Un état pareil me déplaisait de plus en plus, et comme déjà plusieurs jours s'étaient passés sans nouvelles, je commençais à croire qu'on m'oubliait, comme le grand Jacob du chef Hoff, dont tout le monde parle encore, à cause de son bonheur extraordinaire. La tante Gredel elle-même me disait chaque fois que j'allais chez eux. « eh bien, ils veulent donc nous laisser tranquilles !» Lorsque le matin du 25 janvier, au moment où j'allais partir pour les 80, M. Goulden, qui travaillait à son établi d'un air rêveur, se retourna, les larmes aux yeux, et me dit « Écoute, Joseph, J'ai voulu te laisser dormir encore tranquillement cette nuit. Mais il faut pourtant que tu le saches, mon enfant. Hier soir, le brigadier de gendarmerie est venu m'apporter ta feuille de route. Tu pars avec les Piémontais et les Génois, et 5 ou 6 garçons de la ville. Le fils Klipfel, le fils Lerig, Jean Furst et Gaspard Zébédé. Vous partez pour Mayence. En entendant cela, je sentis mes jambes s'en aller. Et je m'assis, sans pouvoir répondre un mot. M. Goulden sortit de son tiroir la feuille de route en belle écriture, et s'est mis à lire lentement. Tout ce que je me rappelle, c'est que Joseph Bertha, natif de Dabo, canton de Falsbourg, arrondissement de Saarbourg, était incorporé dans le 6e léger, et qu'il devait avoir rejoint son corps le 29 janvier à Mayence. Cette lettre me produisit un aussi mauvais effet que si je n'avais rien su d'avance. Je regardais cela comme quelque chose de nouveau, et j'en fus indigné. M. Goulden, après un instant de silence, dit encore. « C'est aujourd'hui que les Italiens partent, vers 11 heures. » Alors, me réveillant, comme d'un mauvais rêve, je m'écriai. « Mais je ne reverrai donc plus Catherine ?»« Si, Joseph, si, » dit-il d'une voix tremblante. J'ai fait prévenir la mère Grenelle et Catherine. Ainsi, mon enfant, elles viendront. Tu pourras les embrasser avant de partir. Je voyais son chagrin, et je m'attendrissais encore plus, de sorte que j'avais 1000 peines à m'empêcher de fondre en larmes. Au bout d'une minute, il reprit. Tu n'as besoin de t'inquiéter de rien. J'ai tout préparé d'avance. Et quand tu reviendras, Joseph, si Dieu veut que je sois encore de ce monde, tu me trouveras toujours le même. Mon plus grand bonheur aurait été de te conserver comme un fils, car j'ai trouvé dans toi le bon cœur et le bon esprit d'un honnête homme. Je t'aurais cédé mon fonds. Nous aurions été bien ensemble. Catherine et toi, vous auriez été mes enfants. Mais puisqu'il en est ainsi, résignons-nous. Tout cela n'est que pour un peu de temps. Tu seras réformé, j'en suis sûr. On verra bien que tu ne peux pas faire de longues marches. Tandis qu'il parlait, moi, la tête sur les genoux, je sanglotais tout bas. À la fin, il se leva et sortit de l'armoire un sac de soldat en peau de vache qu'il posa sur la table. Je le regardais tout abattu, ne songeant à rien qu'au malheur de partir. « Voici ton sac, dit-il. J'ai mis là-dedans tout ce qu'il te faut, deux chemises de toile, deux gilets de flanelle et le reste. Tu recevras 2 chemises à Mayence, c'est tout ce qu'il te faudra. » Mais je t'ai fait faire des souliers, car rien n'est plus mauvais que les souliers des fournisseurs. C'est presque toujours du cuir de cheval qui vous échauffe terriblement les pieds. Tu n'es pas déjà trop solide sur tes jambes, mon pauvre enfant, au moins que tu n'aies pas cette douleur de plus. Enfin voilà, c'est tout. Il posa le sac sur la table et se rassit. Dehors, on entendait les allées et venues des Italiens qui se préparaient à partir. Au-dessus de nous, le capitaine Vidal donnait des ordres. Il avait son cheval à la caserne de gendarmerie et disait à son soldat d'aller voir s'il était bien bouchonné, s'il avait reçu son avoine. Tout ce bruit, tout ce mouvement me produisait un effet étrange, et je ne pouvais encore croire qu'il fallait quitter la ville. Comme j'étais ainsi dans le plus grand trouble, voilà que la porte s'ouvre, et que Catherine se jette dans mes bras en gémissant, et que la mère Grenelle crie. « Je te disais bien qu'il fallait te sauver en Suisse !» Que ces gueux finiraient par t'emmener. Je te le disais bien, tu n'as pas voulu me croire. Mère Grenelle, répondit aussitôt M. Goulden, de partir pour faire son devoir, ce n'est pas un si grand malheur que d'être méprisé par les honnêtes gens. Au lieu de tous ces cris et de tous ces reproches qui ne servent à rien, vous feriez mieux de consoler et de soutenir Joseph. Ah, dit-elle, je ne lui fais pas de reproches, non, quoique ce soit terrible de voir des choses pareilles. Catherine ne me quittait pas. Elle s'était assise à côté de moi, et nous nous embrassions. « Tu reviendras, » faisait-elle en me serrant. « Oui, oui, » disais-je tout bas. « Et toi, tu penseras toujours à moi. Tu n'en aimeras pas un autre. » Alors elle sanglotait en disant. « Oh non, je ne vais aimer que toi. » Cela durait depuis 1/4 d'heure, lorsque la porte s'ouvrit et que le capitaine Vidal entra, le manteau roulé comme un corps de chat sur son épaule. « Eh bien, dit-il, eh bien, et notre jeune homme ?»« Le voilà, » répondit M. Goulden. « Ah, oui, » fit le capitaine, « ils sont en train de se désoler, c'est tout simple. Je me rappelle ça, Nous laissons tous quelqu'un au pays. » Puis élevant la voix. « Allons, jeune homme, du courage. Nous ne sommes plus un enfant, que diable !» Il regarda Catherine. « C'est égal, dit-il à M. Goulden. Je comprends qu'il n'aime pas de partir. » Le tambour battait à tous les coins de la rue. Le capitaine Vidal ajouta. « Nous avons encore 20 minutes pour lever le pied. » Et me lançant un coup d'œil. « Ne manquons pas au premier appel, jeune homme, » fit-il en serrant la main de M. Goulden. Il sortit. On entendait son cheval piaffer à la porte. Le temps était gris. La tristesse m'accablait. Je ne pouvais lâcher Catherine. Tout à coup, le roulement commença. Tous les tambours s'étaient réunis sur la place. M. Goulden, prenant aussitôt le sac par ses courroies sur la table, dit d'un ton grave. « Joseph, maintenant embrassons-nous. Il est temps. » Je me redressai tout pâle. Il m'attacha le sac sur les épaules. Catherine, assise la figure dans son tablier, sanglotait. La mère Grédel, debout, me regardait les lèvres serrées. Le roulement continuait toujours. Subitement, il se tut. « L'appel va commencer, » dit M. Goulden en m'embrassant. Et tout à coup, son cœur éclata. Il se mit à pleurer, m'appelant tout bas son enfant et me disant « Courage !» La mère Grédel s'assit. Comme je me baissais vers elle, elle me prit la tête entre ses mains et, m'embrassant, elle criait. « Je t'ai toujours aimé, Joseph, depuis que tu n'étais qu'un enfant. Je t'ai toujours aimé. Tu ne nous as donné que de la satisfaction. Et maintenant, il faut que tu partes. Mon Dieu, quel malheur !» Moi, je ne pleurais plus. Quand la tante Grédel m'eut lâché, je regardais Catherine qui ne bougeait pas, et m'étant approchée, je la baisais sur le cou. Elle ne se leva point, et je m'en allai bien vite, n'ayant plus la force lorsqu'elle se mit à crier d'une voix déchirante « Joseph, Joseph !» Alors je me retournai, nous nous jetâmes dans les bras l'un de l'autre, et quelques instants encore, nous restâmes ainsi, sanglotant. Catherine ne pouvait plus se tenir. Je la posai dans le fauteuil, et je partis, sans oser tourner la tête. J'étais déjà sur la place, au milieu des Italiens et d'une foule de gens qui criaient et pleuraient en reconduisant leur garçon. Et je ne voyais rien, je n'entendais rien. Quand le roulement recommença, je regardai et je vis que j'étais entre Klipfel et Fürst. Tous deux, le sac au dos, leurs parents devant nous, sur la place, pleuraient comme pour un enterrement. À droite, près de l'hôtel de ville, le capitaine Vidal, à cheval sur sa petite jument grise, causait avec deux officiers d'infanterie. Les sergents faisaient l'appel, et l'on répondait. On appela Zébédé, Fürst, Klipfel, Bertha. Nous répondîmes comme les autres, puis le capitaine commanda. « Marche !» Et nous partîmes deux à deux vers la porte de France. Au coin du boulanger Spitz, une vieille, au premier, cria de sa fenêtre, d'une voix étranglée, « Casper ! Casper !» C'était la grand-mère de Zébédé. Son menton tremblait. Zébédé leva la main sans répondre. Il était aussi bien triste et baissa la tête. Moi, je frémissais d'avance de passer devant chez nous. En arrivant là, mes jambes fléchissaient. J'entendis aussitôt quelqu'un crier des fenêtres. Mais je tournai la tête du côté de l'auberge du Bœuf Rouge. Le bruit des tambours couvrait tout. Les enfants couraient derrière nous en criant. « Les voilà qui partent ! Tiens, voilà Klipfel ! Voilà Joseph !» Sous la porte de France, les hommes de garde, rangés en ligne, l'arme au bras, nous regardèrent défiler. Nous traversâmes l'avancée, puis nos tambours se turent, et nous tournâmes à droite. On n'entendait plus que le bruit des pas dans la boue, car la neige fondait. Nous avions dépassé la ferme de Geberhof, et nous allions descendre la côte du Grand Pont, lorsque j'entendis quelqu'un me parler. C'était le capitaine qui me criait du haut de son cheval. « À la bonne heure, jeune homme, je suis content de vous. » En entendant cela, je ne pus m'empêcher de répandre encore des larmes. Et le grand Fürst aussi. Nous pleurions en marchant. Les autres, pâles comme des morts, ne disaient rien. Au grand pont, Zébédé sortit sa pipe pour fumer. Devant nous, les Italiens parlaient et riaient entre eux, étant habitués depuis 3 semaines à cette existence. Une fois sur la route de Metting, à plus d'une lieue de la ville, comme nous allions redescendre, Klipfel me toucha l'épaule et, tournant la tête, il me dit « Regarde là-bas !» Je regardai et j'aperçus Falsbourg bien loin, au-dessous de nous, les casernes, les poudrières et le clocher d'où j'avais vu la maison de Catherine, 6 semaines avant, avec le vieux Brinstein. Tout cela gris, les bois noirs autour. J'aurais bien voulu m'arrêter là quelques instants, mais la troupe marchait, il fallut suivre. Nous descendîmes à Metting.